cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Bonjour Jean-Louis Orvilleur.
Bonjour Marc.
Jean-Louis Orvilleur, vous êtes audioprothésiste.
Oui.
Alors, je pense que c'est la première fois que chez Cobuzz nous recevons autour de nos micros pour un podcast un audioprothésiste. Vous allez, même si on se doute un peu du travail en question, vous allez un peu nous reparler de tout ça. Vous êtes un peu une sorte de, vous êtes en croisade pour la protection de nos oreilles. Vous intervenez dans les concerts. Vous avez un site qui s'appelle lesoreilles.com sur lequel donc vous êtes quand même un professionnel, on pourrait dire, de tout ce qui est risque auditif, principalement dans la musique amplifiée. Et votre marotte, c'est un peu les stratégies et les moyens de protection pour pallier à toutes ces problématiques. Alors c'est vrai que tout ce qui est lié au son et au beau son et à la protection de nos oreilles et à la qualité, on va dire, de protéger le mélomane chez Cobuzz, ça nous tient à cœur. Donc on va parler un peu de tous ces sujets, également je pense des prothèses ou des bouchons, même tout simplement, qu'on peut utiliser dans les concerts de musique amplifiée. Vous nous parlerez peut-être aussi, on parle là ce qui est peut-être fort en parlant de métal, mais il y a aussi peut-être tout simplement la compression déjà, qui est aussi une autre forme, je pense, d'agression pour nos oreilles. Alors, tout simplement, la première question, c'est qu'est-ce qu'un audioprothésiste ?
Alors, ça, c'est pas très très compliqué. L'audioprothésiste, en fait, c'est la personne qui appareille les déficients de l'ouïe. Après la consultation médicale, on reçoit la personne avec son ordonnance, en fait, pour l'appareiller. En résumé, donc, il y a toute une partie qui est très très importante, qui est la rééducation auditive. Donc, on remonte le son, quelque part. Donc, ça, c'est le premier métier, c'est la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'entend pas assez, on n'arrive pas à communiquer. Et vous savez à quel point c'est important. On compense la perte auditive en fonction des fréquences, et voilà.
J'ai pas précisé également, c'est que vous êtes guitariste.
Je suis guitariste.
Ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que ça veut dire que finalement, quand vous êtes engagé dans cette voie, est-ce que c'était déjà également pour le rapport avec les oreilles, avec le son, avec la musique ? C'est quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur ?
Disons qu'on voit que dans le corps médical et du côté des paramédicaux de l'audition, on ne vient pas dans ce circuit par hasard. Il y a quand même pas mal de musiciens, de gens qui écoutent de la musique au minimum. Il y a tout un tas de personnes qui ont déjà un intérêt pour l'oreille au moment où ils font leurs études, effectivement. Donc tout est lié. Donc effectivement, je suis guitariste et depuis quelques années, même, je travaille dans la presse guitare, en fait, pour un magazine qui s'appelle Guitar Part, où je fais des tests d'instruments, donc côté qualité du son. Donc justement, c'est des tests routiers un petit peu comme on ferait un test de voiture. Nous, on fait des tests de guitare et on donne nos sensations, on explique un petit peu ce qu'on en...
Est-ce
qu'il faut l'acheter ou pas, quoi. C'est un petit peu le...
Alors, à quel moment vous avez fait un peu, j'allais dire, fusionner tout ça, c'est-à-dire votre profession audioprothésiste, votre passion pour la musique, et à partir de quel moment vous avez vêtu votre armure de chevalier pour protéger les oreilles et le son ? Comment ça a démarré tout ça ?
Disons que ça a démarré par un article, en fait, dans Guitar Part, parce qu'au départ, bon, c'était plutôt l'audioprothésiste stressé avec beaucoup de travail qui avait envie de rentrer dans une revue de guitare. Bon, là, c'était autre chose, j'ai pas forcément calculé la chose. Puis un jour, on a fait un article que je vous ai apporté, je vous en laisserai une copie et le lien éventuellement vers ce document, où il fallait en 3 pages, 13 500 caractères, dire tout. Puis finalement, donc on a travaillé dessus, on a retravaillé au point que la rédaction a chauffé un petit peu, et on s'est retrouvé avec un document qui nous paraissait être intéressant et pédagogique. Donc du coup, j'ai créé un site, je suis allé un petit peu commencer à faire un petit peu
donc
de...
Donc lesoreilles.com, c'est ce site ?
Un site, oui, qui s'appelle lesoreilles.com, où on trouve quelques articles sur les guitares, sur la musique, quelques interviews aussi, enfin, de poids lourd du gros son. puisque ça aussi c'est une autre passion. Et petit à petit, je me suis rendu compte que par ma double casquette, c'est-à-dire le côté audioprothésiste, le côté guitariste, le côté métal, enfin c'est même plus qu'une double casquette, là on n'arrête plus, et surtout le côté je sais quel est le plaisir du son et je connais ses dangers, ça m'a mis naturellement dans le circuit. Après, le reste, c'était une question d'avoir du temps, de la disponibilité, de tourner pour en parler.
Alors, votre activité donc de chevalier servant, comme je disais, va jusqu'à même les festivals où vous allez et vous présentez un petit peu, que ce soit par exemple les bouchons ou les risques d'écouter la musique trop fort. Alors, est-ce que quand vous débarquez comme ça dans ce genre de concert, un concert de hard rock, de métal, de trash ou je ne sais quoi, est-ce qu'on vous reçoit avec des tomates? Est-ce que les gens sont sensibles à ce type de problématique? Est-ce qu'on vous rit au nez? Comment ça se passe?
Disons que là, l'accueil est très bon en fait. On a eu dimanche dernier par exemple un festival de métal, donc festival de métal avec la relève du métal français, le Paris France Metal Festival 4 au Divan du Monde, donc, qui était le 8 janvier. Et alors là, on a eu un très très bon accueil, donc moi et mon équipe, on a été applaudis en fait. Donc ça veut dire que de toute façon, c'était vraiment un plaisir, mais c'était pas une surprise dans la mesure où quelque part on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont conscients des risques. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont pas sûres, puis on va peut-être en parler un petit peu dans ce podcast. Il y a des tas d'éléments que les gens ne connaissent pas, et moi mon but c'est pas d'aller faire du bouchon et d'enfoncer les bouchons oreille par oreille pour dire allez les petits loups vous allez vous faire mal aux oreilles, c'est tout simplement d'aller éduquer les cerveaux qui sont au milieu des deux oreilles, enfin on espère, et de donner tous les éléments aux gens pour qu'ils puissent se gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait le risque auditif c'est pas le concert de métal forcément, le risque auditif c'est le mauvais son, le risque auditif c'est dans la rue. Je vais dire, en venant ici, j'en ai entendu des choses pas possibles. Et surtout, il faut que chacun puisse se gérer. Il n'est pas évident qu'il y ait des bouchons dans toutes les fêtes d'anniversaire, dans tous les endroits où on peut avoir des soucis, parce qu'on en voit arriver aussi, pas forcément pour un concert de métal, mais pour un accident auditif tout bête. Et donc, mon but, c'est surtout d'informer. Donc, a priori, en plus dans le métal, quand même, je ne suis pas en dehors de chez moi. Quand on arrive pour informer, on est toujours bien reçu. Puis donc là, on a fait l'ouverture du festival. J'ai parlé un petit peu du risque auditif. J'avais amené un témoin de la communauté métal, donc qui a parlé un petit peu de tout ça. Et ça s'est très très bien passé en fait.
Est-ce que vous avez senti une évolution ces dernières années, parce que vous écoutez du hard rock et du métal depuis un certain temps? Est-ce que on monte le son dans les salles? Comment ça se passe? Parce que vous avez même tout à l'heure, vous avez cité en venant ici toutes les agressions sonores. C'est-à-dire qu'effectivement, les agressions musicales, il y a peut-être aussi l'usage de plus en plus fréquent des casques. C'est-à-dire que je pense que la jeune génération actuellement écoute beaucoup plus la musique au casque qu'il y a 20 ans, où les gens écoutaient peut-être plus ça sur une chaîne IFI ou autre. Donc toutes ces choses-là, comment ça a évolué par rapport à votre métier et aux pratiques?
En fait, alors, pour répondre à votre question, du point de vue du secteur musical, il y a une prise de conscience qui se fait, on oblige un petit peu, il y a encore un certain nombre d'endroits, et c'est pas une question ni de taille de la salle, je veux dire, c'est pas les plus petites salles qui sont les plus dangereuses, enfin pas forcément, je veux dire, il n'y a pas de règle en fonction ni du budget du groupe, des choses comme ça, il y a des fois le son est dégueulasse, déchire les oreilles, hein, c'est le terme que le public, ou les accidentés auditifs, parce que dans les centres d'audioprothèse, malheureusement, de temps en temps, on a besoin de faire des bouchons pour que les gens puissent vivre après le concert. Disons qu'il y a quand même une prise de conscience, mais il reste quand même un gros travail à faire au niveau des ingé sons, je pense.
Au niveau des ingénieurs du son.
Je pense que le terme d'ingé son est un petit peu galvaudé, que derrière les consoles, il n'y a pas que des gens qui savent s'en servir. Et je vais un petit peu essayer de lancer une action de formation là-dessus dès que possible. En fait, je cherche un petit peu un professionnel qui me permette de créer un module de formation là-dessus, et je pense que ce serait bien de...
Est-ce que ça veut dire que vous retrouvez parfois aussi face à des résistances, que ce soit du côté des groupes, des musiciens, ou même par rapport à des tourneurs, ou à des... Comment ça se passe justement? En général, les groupes ont tendance parfois à dire « montez le son », et certaines salles évidemment sont liées à des taquets de décibels. Telle salle ne pourra pas dépasser telle puissance. Comment ça fonctionne?
Non, il n'y a pas de résistance. important. Enfin, je veux dire, je n'ai pas rencontré de résistance à proprement parler, du style, à part effectivement peut-être un tourneur ou deux pas très très intelligent, mais bon, je leur ai fait savoir. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, si vous voulez, le bouchon est devenu un objet de communication de toute façon, donc... Puisque c'est quand même la première approche, si vous voulez. Au départ, quand il y a un premier contact avec un organisateur, c'est toujours une histoire de bouche, en fait. Parce que, quelque part, il y en a quand même énormément qui ont commencé à se rendre compte qu'il fallait gérer le risque auditif, qu'il y a de plus en plus de spectateurs, de toute façon, qui s'attendent à trouver des bouchons et qui en réclament quand il n'y en a pas. Que le bouchon peut être un bel objet de communication, d'ailleurs, une fois qu'il est personnalisé. Donc, il y a des approches là-dessus. Mais au niveau des groupes, par contre, non, il n'y a pas de résistance. Il y a de plus en plus de gens dans les groupes qui me disent « c'est bien ce que tu fais ». Il y en a quelques-uns à qui j'ai fait des bouchons. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de résistance majeure, si vous voulez. Il y a juste un petit problème, un petit flou de savoir comment, quand il y a des bouchons, qui les finance et des choses comme ça. Ça, c'est le plus compliqué.
Vos interventions se limitent exclusivement aux concerts de métal ou vous commencez également à aller vers d'autres types de musique? On sait aussi parfois il peut y avoir les mêmes problématiques face aux clubs, aux boîtes de nuit où effectivement de l'électro mixé violemment, j'imagine que là aussi on peut se retrouver aussi face à des conséquences assez violentes sur les oreilles, non?
Non, à part ce que j'écoute, je ne me limite pas au métal, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, il y a dans les choses que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui qui sont mal connues du grand public, l'orchestre symphonique est complètement touché. En fait, de toute façon, je dirais même qu'on peut faire une cartographie de la perte auditive, en fait, en fonction des instruments qu'il y a autour.
Ça veut dire qu'il y a des instruments, finalement, qui font plus mal que d'autres, d'une certaine manière.
Il y a des instruments qui font plus mal que d'autres, mais bon, on ne va pas tous les citer, ouais. Parce que la liste serait longue. Et puis, on ne va pas citer de chanteurs ou de chanteuse en particulier à voix, bon non je dis rien, mais par exemple une simple batterie, de toute façon on est déjà dans des niveaux de risque, enfin une simple batterie, une batterie on sait tous qu'on est déjà en niveau de risque auditif, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Je vais en enfoncer plein aujourd'hui, enfin j'ai essayé, le risque auditif commence avec un coup de cymbale par exemple qui peut sur les plus sensibles être le déclencheur de quelque chose, je veux dire voilà.
Parce qu'en plus je pense que tout le monde n'est pas, les gens ne sont pas égaux,
C'est comme les coups de soleil.
Exactement.
En fait, il y en a qui vont griller tout de suite et d'autres qui vont rester sur la plage. C'est pas juste, on n'est pas égaux. Et en plus, on ne peut pas faire de dosimétrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même en interrogeant la personne pendant des heures et en sachant tout son parcours, toute sa vie, on ne peut pas prévoir... quand il va y avoir un problème. Le seul moyen de faire de la prévention correcte, alors si on a l'impression d'abuser, c'est de faire des tests d'audition réguliers.
D'accord. Donc
mesurer.
Ah, vous avez employé le mot bouchon qui est donc utilisé, etc. Mais on serait presque tenté de se dire, plutôt que de mettre des bouchons, pourquoi on ne baisse pas tout simplement le son?
Eh ben à cause du fait que il y a déjà les instruments acoustiques à couvrir. Il faut qu'il y ait un niveau, si vous voulez, qui soit homogène dans le groupe. Après, effectivement, on est très très vite en niveau de risque auditif. Alors, pour savoir où ça commence, il faut se rebaser sur le droit du travail, en fait. Le droit du travail, c'est le principe de précaution, c'est 80 décibels pour 8 heures. Après, zut, il a parlé de décibels. Ah, ça, c'est une unité, effectivement, qui n'est pas très très drôle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est pas plus compliquée à appréhender que le degré centigrade, finalement. Si on vous explique ce qu'est une échelle de décibels, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les calculs qui peuvent aller derrière. Mais finalement, par exemple, si on prend une règle simple, monter de 3 décibels, c'est doubler le nombre de sources, par exemple. Donc ça veut dire 80 décibels plus 80 décibels, c'est pas 160, c'est 83. Après, donc ça veut dire qu'il y a deux fois plus d'énergie. Pour le reste, c'est pas plus compliqué que ça. Après, pour vous donner quelques exemples de niveaux, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver d'intéressant, mais par exemple, une pièce calme, une chambre en ville, on va dire, elle va être autour de 40 décibels. On va parler autour de 60 décibels à peu près, en moyenne, avec une petite voix faible à 55, avec 70 quand on dispute, 90 on hurle, et à 130, on a un avion au décollage. La tête dans les réacteurs, donc c'est pas... Enfin, pas loin des réacteurs. Donc, vous voyez, c'est une échelle qui n'est pas si compliquée. Petit à petit, donc on se dit 78-80 décibels dans une rue un petit peu animée un samedi après-midi. Vous voyez, on commence à 60 décibels la voix, 78-80 la rue quand il y a du monde. On commence à avoir la perception. Après, c'est facile de savoir où on en est.
Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce que vous appelez la zone orange, c'est ça, la zone...
La zone orange. Alors, ce que j'appelle la zone orange, en fait, c'est cette zone où on peut s'abîmer l'audition sans douleur à proprement parler. Parce que, alors, le corps humain, bon, est pas mal, est une machine quand même assez intéressante, mais de ce côté-là, on a un petit souci, on peut être dans une zone de danger sans s'en rendre compte. Si on approche la main du feu, ça, on va s'en rendre compte tout de suite. Si on approche les oreilles des enceintes dans une rave party, comme on peut voir à la télé, puisque c'est une image dont on me parle souvent, on n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rend compte après. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas quand on sort de la soirée ou du concert, mais c'est un petit peu tard pour certains.
Surtout qu'il y a toujours cet aspect qu'on rabâche à chaque fois, mais qui est une réalité, c'est que toutes ces séquelles sont irréversibles. C'est-à-dire qu'on se casse une jambe, à première vue, l'os peut se remettre et on peut se remettre à courir. Tout ce que l'ouïe perd, ces fameux petits cils, comme on dit, qui se cassent, ne repoussent pas, malheureusement, si j'ai bien compris.
Bah, malheureusement, dans l'état actuel de la médecine, on a fait beaucoup de progrès. On peut mettre des très bons appareils auditifs. Il y en a des très bons, sérieusement. Mais malheureusement, le capteur ne se répare pas, en fait. Donc, effectivement, pour l'instant, en tout cas, les petites cellules ciliées ne se remplacent pas. Et comme elles sont spécifiques à une fréquence, bon, en plus, la fragilité n'est pas la même selon les fréquences, on va vite se dégrader son propre rapport signal-bruit. Donc, c'est dommage d'investir dans des matériels
intéressants.
Voilà, incroyable, parce que je vois qu'ici, là, dans le studio, vous avez de quoi faire. C'est dommage de ça si son oreille n'est plus à niveau. Alors... Pour reparler un petit peu des signes de souffrance, lesquels sont-ils ? Alors, quand on sort de la soirée, il y a trois choses qui ne sont pas normales. Première chose, une impression de coton dans les oreilles. Moi, quand j'ai commencé à aller en boîte, je ne le savais pas. Deuxièmement, ça, c'est l'impression de coton dans les oreilles, ou de moins bien entendre son moteur, par exemple, quand on remonte en voiture. C'est tout simplement qu'on a un déplacement temporaire du seuil d'audition, donc une petite perte temporaire. Enfin, on espère temporaire, puisque c'est dans la plupart des cas, heureusement. Et ça donne cette impression-là, c'est pas normal. Deuxième impression pas normale, un acouphène. Ça, le mot d'acouphène, en fait, c'est un mot encore barbare. On va le définir rapidement. C'est un bruit qu'on entend, mais qui ne vient pas de l'extérieur. Ce bruit-là, donc, souvent, ça peut être un sifflement. Pas normal non plus. Et c'est pas très, très agréable à vivre. Donc, ça, c'est le deuxième signe. Troisième signe possible, c'est de tout entendre plus fort. Que la normale. Dans le pire des cas, bon, on va arriver des cas où un simple trousseau de clé peut faire à peu près le bruit de Big Ben, vous voyez, mais dans l'ensemble, si vous voulez, c'est un petit déplacement du seuil d'audition. Donc ça, c'est les trois signes qui sont pas normaux, et dans la plupart des cas, ils disparaissent, heureusement. Mais effectivement, il n'y a pas que le... Enfin, si vous voulez, en termes de son fort, il y a un certain nombre d'éléments qui comptent, c'est-à-dire l'intensité, la durée de l'exposition, mais aussi sa répétition. C'est sûr que celui qui cumule, parce qu'en fait, l'audition, ça nous sert pour tout, celui qui cumule un travail en milieu bruyant, plus qu'il va en boîte tout le temps, plus qu'il va dans les concerts, effectivement, va plus cumuler que quelqu'un qui est dans le calme à chaque fois. Ces signes-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, doivent disparaître. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si jamais il devait persister, on a très peu de temps pour consulter. En fait, c'est une question d'heure.
On peut réparer, en fait, ça veut dire d'une certaine manière, si ça va.
Alors, réparer, disons qu'il y a des traitements qui aident, en fait. Souvent, il y a des. Enfin, si vous voulez, en général, l'audition, donc du point de vue circulation du sang, est un petit peu fragile. Et il n'y a pas de circulation d'emplacement. Donc, quand il y a des soucis, ils vont tout simplement faire... Enfin, il y a des traitements, il y a un certain nombre de choses, dont une oxygénation, hein, les caissons. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire, mais ça, c'est plutôt du ressort du corps médical. Disons qu'on n'a que quelques heures pour faire ça. Au bout de 48 heures, on est déjà une urgence médicale. Donc, en fait, en général, bon, les gens vont sortir tard d'une soirée. On dirait que si ça persiste vraiment au bout d'une nuit de sommeil, il faut penser à consulter. Et ça, c'est pas beaucoup sûr. On voit arriver beaucoup de gens qui disent « Oui, moi, je suis allé consulter, mais une semaine, 15 jours plus tard. » Là, ça, plus le temps passe, plus ça devient difficile. En particulier, si le fameux acouphène, donc le sifflement, doit persister, il faut absolument que ça...
Agir.
Il faut agir.
C'est intéressant parce que, effectivement, quand on imagine quelqu'un adossé quasiment, accoudé contre une enceinte lors d'une rêve, ou à un concert de thrash metal, on imagine un peu facilement les conséquences que ça peut avoir sur les oreilles. Mais vous avez dit tout à l'heure que finalement, sans citer l'intégralité des instruments, tout ça n'était pas juste réservé aux musiques écoutées très 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 violemment ou aux musiques qui de prime abord sont violentes, mais que par exemple, vous avez cité un orchestre symphonique. On peut donc également subir des agressions, les oreilles peuvent subir des agressions dans d'autres styles de musique ou dans d'autres contextes.
Dans ce qui concerne l'orchestre symphonique, il y a quand même un facteur de proximité. On dira que les musiciens sont quand même pas mal touchés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant il y a de plus en plus aussi de panneaux acoustiques dans les orchestres symphoniques. Mais du coup, ça veut dire que avant, le musicien pouvait être touché par l'instrument d'à côté. Là, il y a certains qui sont plus seuls avec leur risque auditif. Mais disons que tout dépend du lieu, de la salle, de la proximité de l'instrument. Il y a un certain nombre de choses. En milieu ouvert, il suffit de se reculer un petit peu.
C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'il y a énormément de festivals. Par exemple, là, si on revient sur les musiques, sur le rock ou autre, il y a énormément de festivals qui se déroulent en plein air, où parfois, effectivement, les volumes sonores sont très, très, très élevés. Mais j'imagine que le risque est différent, et la position, évidemment, est différente que si on se retrouve dans une salle, que ce soit le Divan du Monde, ou même une salle plus grande comme Bercy.
Ah bah quelle que soit la salle, de toute façon, ça sert à rien de se reculer. Enfin, ça sert à rien de se reculer, ça dépend comment est faite la sonorisation. Mais disons que de plus en plus dans les groupes, dans les concerts de musique amplifiée, on n'a plus ces murs d'enceinte tels qu'on a connus à l'époque bénie de Deep Purple, quand il y avait quand c'était les débuts mai, qu'on savait pas du tout les dégâts que ça pouvait faire. Maintenant, de plus en plus, il y a des systèmes à diffusion, donc où la musique est retransmise un petit peu de partout. En salle, donc, il y a des phénomènes de réverbération. De toute façon, on dira que le seul moyen de savoir si vraiment on est en zone de danger, disons qu'on approche de la zone orange, c'est de dire s'il y a besoin de crier pour communiquer, là on est en zone de danger. Ça, c'est un décibelmètre qu'on a tous, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de hurler à votre voisin pour vous faire entendre, on est déjà dans un niveau sonore un petit peu difficile. Après, un festival, c'est plus facile, sauf s'il n'y a pas de zone pour se reposer ou se reculer, parce que ça, j'en ai entendu parler un petit peu, mais on va essayer de s'en occuper. Il suffit de se reculer. Donc, quand vous multipliez la distance par deux, vous gagnez déjà 6 décibels. Donc, quand on sait qu'on doit diviser le temps d'exposition par deux, enfin, désolé pour les trucs mathématiques, mais comme on sait qu'on doit diviser le temps d'exposition par deux à chaque fois qu'on augmente de 3 décibels, là, en multipliant la distance par deux, vous en enlevez 6. Donc, vous enlevez pas mal d'énergie, en fait. Il faut se reculer.
Comment réagissent les pouvoirs publics à tout ce que vous faites, tout ce que vous racontez? Est-ce que vous sentez du soutien? Parce que finalement, on serait tenté de dire que tout ça, il faut commencer très tôt, c'est-à-dire expliquer finalement aux plus jeunes, leur dire aucun problème d'écouter ce que vous voulez, mais prenez garde, j'allais dire, dès le plus jeune âge, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour certains, c'est presque déjà trop tard, pour d'autres, c'est déjà bien entamé. Est-ce que finalement, tout ça ne doit pas commencer à l'école?
En fait, oui, justement, vous me l'ôtez de la bouche, c'est très drôle. Comment vous dire? Alors, au niveau des pouvoirs publics, bien entendu, il y a des priorités de santé, mais il y a une tâche qui est immense. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait dire que chacun est seul devant son propre risque auditif, puisqu'on n'est pas égaux, on ne sait pas vraiment où on en est, c'est un capteur, c'est un sens en plus. C'est un des 5 sens, donc c'est pas évident qu'il y ait un des 5 sens qui soit modifié. En plus, souvent, la baisse est à part les accidents spectaculaires dont on a pu entendre parler, par exemple, le gars au concert de U2, qui avait été indemnisé pour avoir perdu son audition au concert, la plupart du temps, tous ces ennuis, enfin tous les problèmes de dégradation de l'audition sont très lents. C'est insidieux. Pour certains, ça va aller très vite. Pour d'autres, ça va prendre beaucoup d'années. Entre les deux, il n'y a pas de règle. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pas vraiment une croisade, en fait. On va dire que c'est une campagne de... Comment dire, une campagne d'éducation. C'est même pas la prévention, c'est une chose, l'éducation, c'en est une autre. À partir du moment, et je l'ai dit tout à l'heure, où le cerveau sait où on en est, il y a quand même beaucoup de choses qui risquent beaucoup moins d'arriver. Donc effectivement, il faut commencer très jeune.
C'est-à-dire que le but, c'est d'intervenir dans les écoles, par exemple?
Je le fais de temps en temps, et j'en ai encore là d'autres de programmer. Mon record pour l'instant, c'est le CE2. Je peux vous dire que c'était beaucoup, beaucoup plus impressionnant qu'un festival de métal. Je suis arrivé dans cette classe avec ces tout petits, mais alors petits. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se cacher sous la table quand je vais sortir, parce qu'ils vont dire non, moi je sors plus dans la rue, etc. Il faut faire attention quand même à pas être trop Et puis finalement, ça s'est pas mal passé du tout. En plus, c'était un petit peu au pied levé. J'avais pas été averti vraiment avant. J'avais pas amené un PowerPoint avec des petits nounours ou des. Il y avait des slides qui étaient tout à fait faits pour les grands. On leur avait laissé un dispositif de mesure. Donc, sous la forme d'oreille, comme un feu rouge, en fait, vert, orange et rouge, pendant un mois, avec mission d'être le plus calme possible. Alors, évidemment, les premiers jours, ça n'avait pas trop marché après le cours, évidemment, mais ça s'est fait exprès, ça s'était déchaîné, ils essayaient d'avoir le rouge tout le temps. Ouais. Et puis, au bout d'un mois, en fait, il y avait des sortes de bons points au bon comportement au niveau du bruit. Et quand on a enlevé le dispositif, il y a une petite fille qui nous a dit « Ah non, c'est dommage que vous le repreniez parce qu'en fait, j'étais plus reposé quand je rentrais chez moi. » Et ça, c'était pas mal. Et puis j'imagine les parents comme ils devaient être contents. On est retourné un mois plus tard pour revoir un petit peu ce qu'ils en avaient retenu. Ils avaient retenu des choses. Et du style, qu'est-ce que c'était que 80 décibels ? Il y en a un qui nous avait dit, je suis allé à un concert avec mes parents, je leur ai fait mettre des bouchons. Et des choses comme ça. Donc ça prouvait que
beau geste.
C'était pas mal. Et surtout, on s'est rendu compte qu'ils avaient déjà des petits frères et des petites sœurs qui avaient déjà des baladeurs, qui s'endormaient déjà avec les lecteurs de DVD portables aussi, pour regarder un dessin animé avec le casque ou des choses comme ça. Et c'est vrai que on se dit que le risque auditif commence maintenant dans notre vie moderne très 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 jeune en fait.
L'utilisation, donc ce qu'on disait tout à l'heure, du casque dans le circuit fermé de l'écoute musicale.
En fait, l'oreille, c'est une fonction qui sert en permanence. Finalement, c'est une fonction d'évolution. Je veux dire, même quand on dort, on ferme les yeux. S'il y a un grand bruit, ça vous réveille. L'audition fonctionne en permanence.
Les paupières n'ont pas d'oreilles.
Et les paupières.
Les oreilles n'ont pas de paupières.
Les oreilles n'ont pas de paupières. Et c'est normal, puisque l'homme des cavernes n'avait pas intérêt à ce que ça devait être un peu chaud quand il y avait un prédateur qui s'approchait. Donc en fait, c'est une fonction comme ça qui nous. Une fonction d'alerte. Donc c'est un capital qui est maximal au début de l'âge adulte, et après tout au long de la vie ça va en s'usant petit à petit. On a des statistiques là-dessus. Bon, il faut savoir que la moyenne d'âge des gens qui arrivent chez les audioprothésistes, pardon, ceux qui arrivent à un niveau où la communication commence à être un petit peu handicapée, c'est 74-75 ans. Il y a une petite tendance à se rajeunir ces temps-ci, puisqu'on a de plus en plus de besoins de communication et que les nouvelles aides auditives sont plus performantes que les anciennes. Elles permettent justement, non pas d'être plus puissantes, mais d'appareiller des cas avec moins de pertes, puisque ça, c'est aussi paradoxal. Mais on dira que, oui, on peut axer sur 74-75 ans, l'âge moyen où il commence à y avoir un certain nombre de personnes qui ont des soucis. En fait.
Alors, parlez-nous donc de cet autre type d'agression qui est peut-être plus sournois parce que il saute moins, j'allais dire, aux oreilles qu'un groupe de métal ou un DJ qui mixe de l'électro à fond, c'est la compression tout simplement. Donc la compression aussi, on s'en rend pas trop compte, même pas compte du tout, aussi une forme d'agression.
C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu avec un séquenceur, quand on prend le son et qu'on le représente graphiquement, on s'aperçoit effectivement qu'il y a plus d'écart. En fait, c'est la compression de dynamique, donc il y a plus de dynamique sur certaines musiques. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le risque auditif, il n'y a pas que les bouchons, il y a aussi les pauses. Parce qu'en fait, il y a une partie mécanique dans l'oreille, il y a des neurotransmetteurs aussi qui peuvent s'accumuler. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que de temps en temps, il faut reposer son oreille, en fait. Look at the blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look in the dark we follow. Look at the leaders we follow. Swallowed, and I don't wanna hear no more. I am the day.
What's so civil about war anyway?
Et alors vous-même, à titre personnel, quand vous allez au concert, donc j'imagine que vous sortez vos bouchons. Quand vous jouez de la guitare, vous sortez vos bouchons aussi ?
Alors quand je joue de la guitare dans un endroit où c'est puissant, oui, je ne suis pas le seul.
Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, déjà il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années, quand on allait au concert, on se rendait compte que certains musiciens sur scène, voire tout le groupe, portaient déjà des bouchons, alors que le public, personne n'avait de bouchons.
Mais
finalement,
là,
il y en a évidemment encore, mais on a l'impression finalement que les musiciens eux-mêmes se sont rendus compte presque de la problématique avant le public, puisque eux faisaient monter le son dans les salles de concert, mais ils se protégeaient les oreilles, alors que le public... On a commencé à voir des bouchons apparaître dans les concerts de rock que, on va dire, récemment. C'était pas du tout le cas il y a 20 ans, par exemple.
Il y avait déjà des expériences, il y avait déjà des gens qui en distribuaient, mais...
C'était un peu cocasse.
C'est-à-dire qu'en fait, on en trouvait beaucoup plus par terre. Là, je peux vous dire qu'au festival, j'avais quand même fait les choses correctement, c'est-à-dire qu'on avait pris des bouchons en emballage réutilisable, bien que normalement, il est conseillé de les prendre à usage unique, mais il y a des gens qui les ont gardés. Et des bouchons biodégradables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à une époque, quand on distribuait les bouchons, on en retrouvait effectivement un maximum dans la salle.
Donc là, ils sont biodégradables. Ils sont faits en quoi ?
Alors, c'est une mousse biodégradable dont je n'ai pas le secret. En fait, le produit qu'on a distribué là, nous a été fourni par le fournisseur de bouchons, en fait, en disant que c'était un produit en essai, en fait. C'est-à-dire que c'est un fournisseur qui l'a déjà fait homologuer, etc. Mais que là, c'est une mousse. Alors, je n'ai pas encore étudié en combien de temps elle était biodégradable. J'ai fait des expériences de torsion. Enfin, je les ai un peu torturées avant quand même pour regarder. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le bouchon, pour être bien mis, doit être complètement compressé, mis dans le conduit et ensuite relâché, non pas parce que j'en ai vu qui essayaient de le mettre comme un vieux bouchon de champagne, en fait ça fait le même effet, c'est-à-dire que ça rentre pas super bien et il sent pas mal du tout. Là, j'ai fait quelques tests personnels avec, de toute façon je teste à peu près tout ce qui me passe dans les... j'ai peut-être 6, 7, 8 paires différentes de sur-mesure, plus tout un tas de...
Alors qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour que tout ceci ait vraiment un impact ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement que, je ne sais pas, des artistes, des groupes très 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 connus fassent une tournée complète, une tournée mondiale qui serait sponsorisée ou qui serait où on distribuerait ces bouchons gratuitement ?
S'il y en a qui nous entendent, là j'ai des plans d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact. En fait, oui, il faudrait que quelqu'un d'un petit peu visible bouge un petit peu là-dessus, parce que moi je bouge pas mal, mais je pourrais passer une bonne cinquantaine d'années à le faire, ça n'aurait pas la même efficacité en fait du point de vue prescription sur les plus jeunes. Ceci dit, moi je suis pas, comment dire, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour pousser le bouchon, c'est-à-dire j'en apporte de manière gratuite si possible au niveau des bouchons basiques dans les concerts, parce que c'est pas toujours évident d'en avoir à disposition de façon à ce qu'il y en ait, mais ce n'est qu'une des facettes du message de prévention. Je veux dire, pendant trop longtemps, on a pensé prévention égale bouchon. Non, prévention égale savoir ce qu'on fait. Par exemple, on va balancer encore une nouvelle phrase qui n'est pas trop connue du grand public. C'est pas la peine de mettre les bouchons à la moitié du concert. Un bouchon enlevé 10 minutes sur une journée de 8 heures perd 43% de son efficacité. Donc allez-y. C'est très très rapide. En fait, il faut le porter tout le temps de la durée de l'exposition. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. On les enlève peut-être pendant les pauses des groupes, mais il faut bien les remettre tout de suite, sinon l'efficacité descend très vite. De toute façon, les temps d'exposition après, quand on regarde avec le principe de précaution, sont très très courts. Si on dit 80 décibels pour 8 heures, après, donc bon, on va dire concert, c'est 105 décibels. Alors, en divisant, on arrive à 104. 104 décibels, 1 minute 53 en principe de précaution. D'accord. Et puis bon, le baladeur 100 décibels, alors c'est pareil, donc 80 plus 3, etc. On arrive à 101, ça fait 3 minutes 45 en termes de baladeur mis à fond. Donc ça va quand même, vite. Et ça, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire, c'est les études qui ont été faites par le ministère de la Santé pour s'engager en termes de droit du travail. Donc c'est violent. Un employeur n'a pas le droit de faire plus que ça. Je veux dire, après, il faut prendre des mesures de protection dès 85. Et puis alors, l'exposition max, c'est 87 par jour.
Yeah. 87, on les dépasse facilement, j'imagine.
Protection en termes de musique amplifiée, oui. Alors après, effectivement,
En ville aussi, c'est encore pire.
Voilà.
Jean-Louis Orvilliard, est-ce que vous avez des homologues à l'étranger, des gens qui, comme vous, essayent de raconter tout ça? Est-ce que vous êtes en contact avec des...
Oui, en fait, je ne suis pas tout seul, heureusement, mais on a tous... En fait, il y a des associations en France, il y en a à l'étranger, il y en a un petit peu partout. Alors, je ne suis pas tellement en contact avec les associations à l'étranger. C'est vrai qu'il y a déjà tellement de travail sur le territoire national que j'ai pas réalisé un projet qui me tenait à cœur, qui était de traduire 2-3 éléments de mon site en anglais, parce que je suis quand même plus en correspondance avec d'autres journalistes dans le monde de la musique d'ailleurs que d'autres préventeurs, puisqu'on est vraiment beaucoup en fait. Il y a des fondations, il y a tout un tas de gens dans le monde entier de toute façon qui se préoccupent de ce sujet, et on a l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Il y a tellement de travail à faire, tellement de monde, tellement de...
Et ça progresse aussi, on voit que ça progresse. On a reçu il y a un peu de temps le président de la Semaine du Son, donc tous ces événements finalement petit à petit grossissent. Alors évidemment ça reste encore peut-être tout petit à côté, comme vous dites, de cette image de vider la mer à la petite cuillère, mais bon.
Non, moi c'est vraiment l'image que j'ai de ce que je suis en train de faire, parce que on a beau enchaîner les dialogues avec des tas de gens qui savent bien ce que tu fais dans le festival de métal, je veux dire du personnel en passant par les groupes, en passant par les festivaliers, tout ça, j'ai eu plein de témoignages. On en a profité, d'ailleurs, j'avais un étudiant en audioprothèse qui était venu pour faire son mémoire un petit peu sur l'impact de la prévention, donc questionner les gens. On en avait profité sur cette opération pour essayer d'en tirer un petit peu des règles, et puis de regarder un petit peu comment les gens percevaient la chose de manière scientifique. Et on dira, ça c'est le côté scientifique de la chose, parce que sur tout ce que je fais, par exemple les bouchons, il y a toujours un côté scientifique. J'ai fait porter à 16 personnes à peu près tous les bouchons qui étaient à disposition, en tout cas chez les audioprothésistes, pendant des mois, pour qu'on étudie la musicalité. Et ça n'avait pas encore été fait, parce que, quitte à faire du bouchon, étudions un petit peu aussi la sensation. Ça, c'est le testeur de guitare qui est revenu tout de suite à la charge, c'est-à-dire de dire, faisons un comparatif. Donc, le comparatif est aussi disponible sur le site. Ça donne un petit ordre d'idée, un petit peu, de comment sonnent les bouchons et les différentes catégories. Il y a des bouchons spéciaux musique qui sont équipés avec des filtres, bon, qu'on ne peut pas donner gratuitement, puisque les tarifs sont plutôt autour d'une vingtaine de 25 euros en moyenne.
Donc, qui ne sont pas biodégradables, qu'on peut réutiliser.
Ceux-là ne sont pas biodégradables, pardon, ils sont réutilisables.
On peut les réutiliser à plusieurs...
Ceux-là ne sont pas biodégradables, ils sont réutilisables, selon les fabricants, environ 5 ans. Ça se forme...
Oui, donc ça reste un investissement assez minime, 20 à 30 euros pour 5 ans.
À condition de le faire à l'avance. Parce que c'est vrai, le jour du concert, quand on a déjà payé sa place de concert, plus quelques boissons annexes, il y en a quelques-uns, quoi. Quelques boissons annexes, un repas avant ou après, etc. Disons, c'est pas vraiment dans le budget de la journée, mais dans le budget des oreilles. Là, je pense que 25 euros par rapport à l'efficacité de ces produits. Alors, ce qu'il faut savoir, les bouchons qu'on donne ne sont pas très musicaux. Qu'est-ce qu'un bouchon musical ? C'est un bouchon qui a une atténuation pas trop supérieure, on va le dire comme ça, pas trop supérieure dans les aigus au reste des fréquences. Souvent, quand la courbe de réponse est un petit peu plate et qu'après le 2000, 3000, 4000, elle commence à descendre vraiment beaucoup, on sait que le bouchon va un petit peu cacher les finesses de certains jeux, en particulier chez nous les guitaristes, ça va très très vite. Mais c'est la meilleure solution pour de la prévention gratuite. Puis ils sont quand même pas non plus mauvais, quoi. Je veux dire, la sensation est quand même là. Mais ils sont plus adaptés à l'industrie.
Ce qui est étonnant, c'est que le marché, on pourrait dire, est là. Est-ce qu'il n'y a aucun fabricant de prothèses auditives qui s'est dit soudainement, mais pourquoi on n'essayerait pas justement d'avoir une grosse politique de communication dans ce domaine et d'essayer de développer ça, où finalement, c'est pas trop à l'ordre du jour.
Les fabricants en général, parce que là c'est protection auditive, pas prothèse auditive. Dans les fabricants de protection auditive, on dira que les plus gros sont des PME. Il y a des multinationales du bouchon où il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est plutôt ceux qui fabriquent les bouchons. Pour l'instant, les fabricants sont dans un marché certains ne bougent pas beaucoup, d'autres bougent un petit peu. Hein, on va pas donner de nom, mais bon, ils savent ce que je sais. Je sais qu'ils savent. S'ils m'écoutent, et puis je me débrouillerai pour qu'ils entendent. Quelque chose de très vaste. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de concerts, tout un tas de festivals, tout un tas d'endroits, et personne ne peut tout couvrir de toute façon. Certains vendent des produits sur place, un petit peu plus cher avec du personnel. Moi, je pense que le modèle économique qui devrait fonctionner, mais il faudrait que tout le monde réfléchisse un petit peu, parce qu'en fait, les bouchons, donc le public trouve normal qu'ils soient gratuits. Certains tourneurs préfèrent qu'ils soient vendus cher dans leur... moi, je pense qu'il y a de la place pour un petit peu tout le monde. Je pense qu'on pourrait, et là, j'en appelle au pouvoir public, s'il y en a qui écoutent, aussi, on pourrait trouver un moyen qui est... Bon, il n'y a pas besoin de bouchons pour tout le monde. Certains ne se protègent pas, donc il y a quand même un certain nombre de bouchons disponibles. Obligatoirement du style des bouchons basiques, etc. On pourrait imaginer qu'ils peuvent être financés dans ces cas-là par la vente de bouchons musicaux, voire même peut-être la prise de rendez-vous pour des sur-mesure, parce qu'en fait, on n'a pas parlé aussi des modèles sur-mesure, la Rolls.
Combien ça coûte d'ailleurs de se faire faire un paire de bouchons qu'on garde dans sa poche pour aller au concert? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a plusieurs peut-être différents tarifs, mais ça va être combien à combien?
Il y a plusieurs tarifs. En fait, c'est plus selon l'endroit que selon le modèle. En fait. Donc, les prix constatés vont en boutique de 120 à 180 euros pour le même modèle à peu près, donc 190 même maintenant, sachant que ça aussi, ça va durer 5 ans. Bon, après, il suffit de rechercher un petit peu. Il y a des modèles qui démarrent à 99 euros dans des opérations spéciales en général. C'est toujours quand il y a une association de prévention, des choses comme ça, et quand il y a plusieurs commandes. Alors, effectivement...
C'est sûr qu'à 100 euros, ça reste quand même assez difficile d'essayer de convaincre des jeunes, de leur dire, allez vous faire faire des bouchons sur mesure.
Oui, mais c'est pas forcément non plus nécessaire. Alors, très jeune, attention à la croissance du conduit auditif. Là encore, bon, il y a des paquets d'eau chez les fabricants et tout, mais bon, il y a besoin d'un petit peu plus de suivi si vous êtes en pleine croissance, ça faut le savoir aussi. Mais du point de vue de ces produits, on dirait bon, il y a le prix psychologique de 99 euros, disons, pour pas aller à 100, semble quand même convaincre pas mal de monde. Parce que c'est vrai, quand on est à 120, 150 ou 190 euros, il y a beaucoup de gens qui se renseignent, mais qui ne restent pas, effectivement.
Alors Jean-Louis Orvieur, donc votre site lesoreilles.com, où on pourra voir plus de détails sur tout ce que vous venez de décrire. Il y a des documents aussi en ligne sur ce site. C'est quoi un peu votre objectif, votre but? Donc de continuer, j'imagine, de répandre et de prêcher la bonne parole et de dire aux gens attention, etc. Qu'est-ce que vous êtes fixé des objectifs précis par rapport à... Vous avez parlé donc de ces interventions dans les écoles, dans des festivals ou dans des concerts. C'est d'en faire plus, d'essayer de d'étoffer, j'allais dire, vos troupes.
Alors là, je vais en faire un petit peu plus ces temps-ci. Bon, il faut savoir aussi que je donne pas des cours que dans les écoles. Bon, j'enseigne un petit peu à des gens qui vont vendre les protections auditives aussi, tous les bons principes, et puis aussi la technicité, c'est-à-dire comment sont faits les filtres à l'intérieur, enfin tout un tas de choses comme ça. J'enseigne aussi à l'école des disjockeys de Lyon, UCPH. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette école. C'est la seule qui délivre un vrai diplôme aux disjockeys, c'est-à-dire que pour être disjockey diplômé, il faut en sortir. Pour l'instant, elle est unique en Europe. Et pour être diplômé disjockey, il faut avoir suivi mon cours, ce qui est assez intéressant. Enfin, ce qui, moi, m'a fait plaisir, en tout cas. Je vais me concentrer justement sur ce genre de formation, c'est-à-dire former des formateurs ou des prescripteurs ou des gens qui ont en main, si vous voulez, la sono.
Les acousticiens aussi, vous êtes en contact avec des acousticiens par rapport à toutes ces problématiques?
Je suis vous en connaissez certains. Oui, je suis en contact avec tout un tas de gens, mais si vous voulez, mon but, c'est surtout de tirer dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire là où il y a besoin. Et la tâche, là encore, est assez large. Donc, le public, les tourneurs, les professionnels, je prépare une ou deux actions. Enfin, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler puisque il n'y a rien de certain, mais je prépare une ou deux actions dans les mois qui viennent pour essayer d'interpeller un petit peu, par exemple, les acteurs du monde de la nuit, des choses comme ça, pas forcément de manière spectaculaire. J'ai lancé une opération aussi, non pas de révolte du public, elle s'appelle « Ne me cassez pas les oreilles » parce que je n'ai pas trouvé mieux, mais... Elle est assez parlante comme ça. Elle a montré son efficacité. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même effectivement quelques groupes, techniciens ou ingé-son qui en ont moins, enfin, dont ce n'est pas forcément la préoccupation au niveau du public. Il peut y avoir des membres du public qui trouvent que le son déchire. Les ingé-son sont dans la pièce, puisqu'en général, la sono est toujours en vision de la scène. Donc, on peut toujours leur faire un signe. Et moi, mon nouveau principe, c'est de dire... Bon, ceux qu'on n'a pas formés, il faut leur faire un petit coucou. Donc, allez voir un petit peu sur le site, vous verrez. Il suffit juste, en fait, qu'il n'y a pas besoin de le faire de manière spectaculaire. Il suffit juste de dire, maintenant, c'est normal de se manifester quand il y a un problème. Vous êtes dans une soirée, vous allez voir le DJ, vous allez voir l'ingé son, vous faites un petit signe. Il n'y a pas besoin d'interrompre la soirée. En fait, un petit coucou peut suffire. Se boucher les oreilles, par exemple, ça pourrait être assez rigolo si un jour... Enfin, il y avait plusieurs personnes comme ça qui fassent ce geste de façon à ce que et que ça fasse bouger un petit peu la sono. Et ça, c'est un petit peu mon grand principe, c'est-à-dire de dire la sécurité auditive de chacun, elle est dans ses mains, donc autant les utiliser.
Bien. Eh bien, Jean-Louis Rivière, je vous remercie. Donc, je rappelle l'adresse de votre site www.lesoreilles.com, les oreilles tout attachées. Merci Jean-Louis Rivière.
Merci Marc.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.